plus près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, la gada, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Dispatchez-vous la presse, tiens. Pat, prends le... Prends le Figaro, la Croix,
okay,
Atmen prend l'UMA, Méné Libé. Voilà, c'est le lundi. Bonjour à tous. Et puis Thierry Paret, vous.
Je prends l'équipe.
Faites la. Comment ça s'appelle votre truc que vous faites? J'oublie là quand vous dites les trucs qui se sont passés.
C'est pas une chronique ou un.
Dans la ville.
Le journal, c'est un journal.
Parce que vous avez une vision des choses qui est, comment dirais-je, qui est. Vous avez la bonne focale là tout de suite. Tout de suite. Bonjour à tous.
Radio Nova.
Ciao, Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, a donc annoncé cette nuit sa démission après l'échec de son référendum.
Ciao, parce que c'est en italien. Ça attaque très fort. Il y a Boom Carnet qui me décide de sortir du journal.
Donc après l'échec de son référendum qui visait notamment à limiter les pouvoirs du Sénat pour mettre fin à une instabilité chronique dans son pays, le non a donc été vainqueur à hauteur de 60%, c'est quand même beaucoup. Le président du Conseil italien était pourtant soutenu par l'ensemble des capitales européennes ainsi que par les marchés financiers, ceci dit, ceci explique peut-être aussi cela. C'est une surprise, l'Autriche n'a pas basculé du côté obscur de la force, si je peux me permettre. Les Autrichiens étaient appelés aux urnes hier pour élire leur président et ils ont élu l'écologiste Alexander Van der Bellen à hauteur de plus de 53%. Le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer, obtient lui 46,7%. Il a reconnu sa défaite. Le résultat officiel du scrutin, il ne sera proclamé que dans la journée, même si les fonctions de président de la République autrichienne sont essentiellement protocolaires. Une élection de Norbert Hofer aurait constitué pour la première fois l'arrivée d'un candidat d'extrême droite à la tête d'un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un rapport rédigé le mois dernier, Europol affirme que de nouveaux attentats du groupe État islamique pourraient survenir en Europe et notamment en France, en Belgique et en Allemagne et que l'usage de voitures piégées est désormais à redouter. C'est cette technique que les terroristes de Molenbeek impliqués dans les attaques du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars à Bruxelles avaient d'ailleurs envisagé dans un premier temps. C'est ce qu'affirme en tout cas Europol. Après un immense périple de 4 jours à travers 13 des 15 provinces du pays, la procession funéraire de Fidel Castro est arrivée à Santiago de Cuba hier où ses cendres ont été enterrées. Représentant François Hollande, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a salué sur place un monument de l'histoire, ce qui lui a valu une salve de critiques en France. Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, récupère en Nouvelle-Zélande après son évacuation d'Antarctique. Son état ne lui permet pas encore de rentrer aux États-Unis. L'ancien astronaute de 86 ans a été hospitalisé après avoir été évacué d'une station de recherche près du pôle Sud qu'il visitait avec un groupe de touristes. Gottlieb n'est plus, l'auteur de bande dessinée, est décédé hier à l'âge de 82 ans. Adepte du dérisoire, de l'absurde, de l'humour noir, Gottlieb avait créé des personnages très singuliers, de Gailluron à Super Dupont, en passant par la coccinelle, Isaac Newton, le professeur Burp. Le nom Gottlieb restera associé à Vaillant, à Pif Gadget, à Pilote, la rubrique à braque et puis surtout bien sûr Fluide Glacial qui ne manquera sans doute pas de lui rendre hommage dans son prochain numéro. En dépit d'un pic de pollution prévu aujourd'hui dans la région parisienne, il n'y aura pas de circulation alternée dans la capitale. La maire de Paris en avait fait la demande auprès de la préfecture, sans succès. Une nouvelle demande sera adressée dans la journée pour celle de demain, faite pour mardi, qui s'annonce tout autant polluée qu'aujourd'hui et que les jours précédents aussi d'ailleurs. Nice a battu Toulouse 3-0 hier soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1 de football. Auparavant, Marseille avait battu Nancy 3-0 et Rennes était venu à bout de Saint-Etienne 2-0. Au classement, Nice est en tête, 39 points. Monaco est deuxième, 36 points. Et le PSG est troisième, 35 points. La prochaine journée opposera le week-end prochain, notamment le Paris Saint-Germain au leader niçois.
Nova. Pat, on est lundi, je suis jeune, j'ai envie de gagner de l'argent. Vous me dites le tiercé.
Le tiercé, Edouard, tout à fait. Après.
Alors, t'as des tuyaux aujourd'hui ou pas?
Il y a un très bon cheval dans la course du tiercé à Vincennes, la première, le 9. Upi de Vivre, déféré les quatre pieds, drivé par...
Tu le sens bien. Voilà, comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Upi de Vivre.
Il va gagner.
Il va gagner.
Donc tu fais comme les mecs qui donnent des tuyaux. Oui. C'est-à-dire, s'il gagne, tu te rappelles un bon souvenir en disant « Oui, ma pape », puis s'il ne gagne pas, tu quittes la France.
Ben voilà.
Tu n'as pas beaucoup été en France ces derniers temps.
Non, malheureusement, mais bon.
C'est qui ta cravache d'or, là? Tu me parlais d'un mec.
Non, c'est un jeune jockey qui est extraordinaire, qui s'appelle Pierre-Charles Boudot. Il vient de battre le record d'Europe du nombre de victoires dans une année, 270 victoires détenues depuis 20 ans par un Allemand. Et il en est déjà à sa 279e victoire. Il reste un mois de course. Je crois que ce record va durer très 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 longtemps. Il a 23 ans, c'est extraordinaire.
Comment tu expliques cet engouement chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour le tiercé, cette folie sur Facebook, des mecs qui se posent des petits trucs d'arrivée de course?
Mais je pense que c'est, tu sais, le plaisir de voir courir les chevaux. Déjà, les gens sont amateurs, hein, vraiment. Je connais plein de gens qui aiment ça. C'est tous les jeunes, d'ailleurs, à part le rap. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment les courses à Vincennes. J'en vois beaucoup, d'abord. Et c'est ce qui est intéressant, Edouard, c'est qu'à chaque fois, on renouvelle. Chaque course, c'est quelque chose de nouveau, tu vois.
Toujours recommencer. Toujours recommencer. Comme la mer. Ah, à tout de suite. Une très très bonne journée à 7h05.
À toi aussi.
J'ai donné l'information.
7h, 9h, plus près de toi. 9h, plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Noël commence très tôt en ce moment. Je ne sais pas si c'est pour combler une sorte de peur du vide. Les fêtes, déjà, les magasins se remplissent de jouets. L'angoisse monte pour les gens sans famille ou qui n'ont pas que des bons souvenirs. Et puis les autres, les sapins arrivent et nous sommes. Et c'est là où je voulais en venir. Vous allez voir tout. Je ne parle pas dans l'abstrait. Nous sommes avec Ludovic. Et Ludovic, c'est le sapin d'Anjou. Ce n'est pas son surnom. C'est simplement la pépinière qu'il a. C'est à Saint-Quentin-en-Mauges, entre Nantes et Angers. Bonjour, Ludovic.
Bonjour. Bonjour.
Ludovic, c'est parti. Les foyers commencent à se remplir de sapins.
Oui, 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 tout à fait. Oui, ça fait déjà une bonne dizaine de jours qu'on a livré la plupart de nos sapins, quoi.
Combien vous en avez de plantés chez vous?
Eh bien, nous, on en plante 60 à 70 000 chaque année. Donc après, c'est une rotation qui est de entre 5 et 8 ans. Donc on a environ 300 à 400 000 sapins de mis en pleine terre, quoi.
Ah oui, d'accord. Ça fait combien d'hectares, ça?
Eh bien, on en met en général autour de 8500 par hectare.
Alors, je fais mon petit calcul. On est presque à 45 hectares, à peu près?
C'est ça, oui, tout à fait.
Eh bien, là. Et dites-moi, alors, c'est 5 à 8 ans pour devenir adulte, un sapin?
Oui, tout à fait, oui. Oui, il faut une rotation qui est assez longue. On peut dire que jusqu'à 2 mètres de haut, on atteint les 8-9 ans, quoi.
Alors, je plante mon sapin. Pendant 5 à 8 ans, je le regarde, je l'aime, je l'arrose, je lui parle. Parfois, est-ce que vous parlez aux arbres, Ludovic?
Bon, pas spécialement, mais bon, entre-temps, il y a énormément de boulot. Il y a donc la plantation, il y a la taille pour qu'on puisse donner la forme désirée du client. Donc ça, c'est repris chaque année après la saison pour qu'on reforme la totalité de nos sapins, quoi.
Qu'est-ce que ça aime, un sapin? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui mettre quoi pour que ça pousse bien?
On lui met un peu d'engrais, déjà au départ à la plantation de la fumure, matière organique, et puis après on complète avec des engrais, soit organiques ou chimiques, quoi.
Et ensuite on les coupe quand?
Eh bien, on démarre en général suivant la demande de la clientèle à partir du 20 novembre, quoi.
J'ai planté mon sapin, 5-8 ans, je l'ai coupé, je le mets en camionnette, il arrive chez les gens, et là, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos sapins? De la guirlande, du...
Bah, le mieux pour le client, le plaisir de le décorer, et qu'il puisse aller jusqu'à Noël sans soucis particuliers, quoi.
Est-ce qu'un sapin, pour vous, c'est un arbre comme un autre, ou est-ce que vous êtes attaché à certains qui vous avaient donné des prénoms et que vous voyez partir avec regret?
Bon, c'est vrai que lorsqu'on a des parcelles qui atteignent une certaine hauteur, on a toujours un petit pincement lorsqu'on les fait partir, puisque c'est vrai qu'on a passé énormément de temps dessus, donc ça fait toujours un petit quelque chose, quoi.
Alors soyez gentils avec les sapins, parce que Ludovic les a aimés pendant 5 à 8 ans. On vous laisse partir, là, vous allez où?
Là, je vais repartir marquer, là, puisqu'on a encore pas mal de demandes pour cette semaine, donc faut repartir dès le petit jour pour pouvoir fournir cette semaine, quoi.
C'est beau ce matin chez vous?
Oui, oui, il fait très très beau. C'est un temps sec et frais, donc c'est l'idéal.
Merci Ludovic.
Merci, merci à vous.
Le sapin d'Anjou. Christophe Méné, vous êtes père de famille.
Oui.
Et vous me dites, à la demande de ma fille, j'ai été acheter un sapin.
Malheureusement.
Pourquoi?
Parce que ça s'est très mal passé. Il faut savoir que acheter un sapin dans une grande surface un samedi après-midi, c'est dangereux. C'est dangereux. On rencontre forcément quelqu'un du quartier qu'on n'a pas du tout envie de voir. Les gens se battent. Les sapins... Alors, il faut choisir la taille aussi du sapin. Voilà. Donc, on hésite entre le petit, le trop grand. Voilà. Comme on a une petite maison, bah forcément, on choisit toujours le moyen. Voilà. Celui qu'on ne voit pas.
Cette modestie dans l'achat du sapin, c'est tout vous.
Oui. Enfin, c'est mes finances surtout. Et donc voilà. Après, on le décore et puis là, on casse une boule et on se bat en famille.
Et pourtant, tu l'aimes la vie, Christophe Méné. Tu les aimes tes saisons. Achat de maillot de bain en juin.
Oui.
Sapin de Noël en décembre. Chocolat à Pâques. Tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Et comment se fait-il que tu n'aies pas un rond dès le 15 du mois?
Mais je comprends pas.
Je comprends. Il fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Il obéit à tout. Et dès le 15 du mois, le mec vient me taper.
Ben oui.
Dominique Reynier, bonjour.
Bonjour Ed Robert.
Je vois dans la presse ce matin des résultats très importants pour nous d'élections en Europe. Je vois qu'en Autriche, le représentant des Verts a gagné par 53,6% contre le représentant du parti d'extrême droite. Et qu'en Italie, il a démissionné, Matteo Renzi. Est-ce qu'on a les résultats définitifs ce matin du référendum en Italie?
Définitifs, moi je ne les ai pas encore, mais enfin c'est une défaite assez large, hein, du oui, puisque Matteo Renzi, le Premier ministre italien, a appelé à voter oui à un référendum destiné à valider des réformes qu'il avait voulu pour son pays. C'est dommage parce que Matteo Renzi, c'est le plus jeune des premiers ministres italiens depuis toujours. Il est arrivé en 2014, il avait 39 ans, donc il est encore très jeune pour un Premier ministre. Il a fait beaucoup de réformes dans son pays et il a dû organiser un référendum. Ça, il n'avait pas le choix parce qu'il réformait aussi les institutions. Et il a fait une erreur qui peut intéresser nos auditeurs si on y réfléchit. Il a fait une erreur qu'il a d'ailleurs reconnue avant le résultat, c'est d'avoir personnalisé le référendum puisqu'il a dit « si c'est le non qu'il emporte, je partirai ». Il n'était pas obligé de faire ça.
Un truc gaullien comme ça.
Oui, mais alors dans notre société aujourd'hui, on sent bien les uns les autres qu'on a toujours un peu envie de se payer la tête des gouvernants. Et dès qu'il a dit ça, ça a changé la nature du scrutin. C'était plus tellement est-ce que les réformes sont bonnes ou mauvaises. Je crois qu'elles sont plutôt bonnes, je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est pas même voire très bonnes d'ailleurs. Mais est-ce qu'on va se payer ou pas Matteo Renzi pour dire qu'on en a ras-le-bol de lui, de la situation, de l'époque, etc. C'est ça qui s'est passé, en fait. Et ça devient autre chose. Ce n'est pas un débat rationnel, c'est l'émotion. C'est plutôt, je dirais, le fait de casser que de construire. Et là, donc, il a été emporté par ça. Hein. C'est clairement ça qu'il a fait tomber.
Mais vous avez dit que ce n'était pas rationnel. Est-ce qu'on peut encore voter rationnellement? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, entre le moment où une loi est décidée, votée, promulguée et appliquée... Combien de temps ça prend déjà, ça, de sentir vraiment les effets d'une loi?
Ça dépend des lois. Hein. La loi sur le mariage pour tous...
C'est immédiat.
C'est immédiat. Hein,
mais dans la vie économique, j'ai l'impression que les gens attendent
très
tout
long.
De suite, c'est ça?
Oui, c'est très long. Oui, c'est toute une machinerie, c'est très long. C'est un des grands sujets, ça. Et alors, c'est très long, pas que pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est très long parce qu'il faut faire des vérifications juridiques. C'est très long parce qu'il faut éventuellement indemniser des perdants d'une réforme. C'est très long parce qu'il faut respecter toute une série de règles qui sont elles-mêmes importantes. Et si on ne les respectait pas, on en souffrirait. Enfin, il devient invisible tout un effort collectif qui est fait, hérité de beaucoup d'expériences, hein, où l'on s'efforce de... sans doute de préserver l'intérêt général. Tout n'est pas justifié. Dans la lenteur, il y a aussi des résistances, il y a des échecs, il faut recommencer, on s'y prend mal, etc. Il y a beaucoup d'éléments négatifs. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi de bonnes raisons de ne pas aller trop vite dans certaines réformes. Mais alors, les effets sont loin à venir et du coup, on a l'impression qu'effectivement, il ne se passe rien. Ce qui est très décevant avec l'Italie, c'est que Matteo Renzi, qui est arrivé au pouvoir en 2014, est vraiment, et ça c'est reconnu par tous, un Premier ministre qui a, c'est centre-gauche à peu près, hein, sa sensibilité, le Parti démocrate, c'est un Premier ministre qui a beaucoup, beaucoup réformé, qui a mis en route beaucoup de réformes compliquées, qui étaient courageuses même pour beaucoup d'entre elles. Et donc là, il a terminé sa carrière sur ce référendum.
Dominique, en dehors des chiffres, à votre avis, vous, qu'est-ce qui fait ressentir aux gens que les choses vont mieux économiquement? Par exemple, le ressenti, c'est quoi? Ça ne peut pas être juste des chiffres, le chômage a baissé de tant de
non,
personnes, de tant de...
Non.
C'est quoi?
Non, ça marche, ça n'a pas de sens. Ce sont des représentations, ça, ce sont des catégories générales. Non, c'est, le sentiment que ça va mieux doit être une expérience personnelle. Il faut que les individus ressentent dans leur vie quotidienne que quelque chose s'est un peu dénoué, ils ont un peu moins de difficultés. Alors, c'est des choses très concrètes. Hein. Par exemple, on arrive à payer un peu plus facilement son loyer, on trouve plus facilement un logement qui vous convient, on arrive à trouver plus facilement des places pour les gamins à la crèche, L'école est un peu mieux que celle qu'on avait précédemment. Enfin, ce sont ces éléments-là. Et pour les personnes qui ont des enfants, on se fait un peu moins de soucis pour le futur de ces enfants. On se représente pour eux un avenir un peu plus lumineux. C'est des choses très, très concrètes qui peuvent être de l'ordre du matériel, c'est-à-dire tout simplement, je m'en sors un peu mieux avec mes revenus, ou de l'ordre de la projection. Mes inquiétudes face au futur sont en train de se réduire.
Alors, quand on est inquiet, on vote comme en Allemagne, par exemple, on est à la limite de voter pour le candidat d'extrême droite. Est-ce que c'est un soulagement qu'il soit battu, le candidat en Allemagne?
C'est vraiment une très bonne nouvelle. Dans ce pays où je le signale, le droit de vote existe à 16 ans. Donc, on vote à partir de 16 ans en Autriche. À ma connaissance, c'est le seul pays européen. Et c'est une élection qui est rejouée. C'est un second tour qui avait déjà eu lieu en mai. Mais comme les deux candidats, Hofer pour l'extrême droite et Van der Bellen pour les écolos, mais enfin c'est un peu compliqué, avaient fait 50-50 et qu'il y a eu des irrégularités dans le comptage, pas du tout de trucage, c'est pas le genre, mais dans le comptage ils s'étaient trompés, on avait rejoué l'élection, c'était hier, et là l'écart est beaucoup plus net en défaveur du candidat d'extrême droite. C'est vraiment une très bonne nouvelle, hein, parce que sa victoire déstabilise davantage l'Union européenne. L'euro, même s'il n'était pas favorable à la sortie de l'euro, à la différence en France de Marine Le Pen, c'était quand même un mauvais signe supplémentaire. Et puis ça dit aussi, l'Italie et l'Autriche, Édouard Baird, dont vous me parlez ce matin, ça dit aussi que nous sommes dans cette espèce de communauté historique. C'est notre univers maintenant, on en parle comme de politique intérieure en quelque sorte. Ce qui arrive à nos amis italiens, à nos amis autrichiens, ça nous arrive aussi, à nos amis britanniques aussi, ça nous arrive aussi. Et on voit bien cette espèce de vie politique européenne qui circule, hein, entre les peuples, où il y a beaucoup plus de points communs que de différences.
Alors, Van der Bellen, le candidat vert qui a été élu, est apparu les derniers jours de la campagne en tenue traditionnelle autrichienne. Ça a fait sourire certains. Pensez-vous que ce soit une solution pour une gauche coupée des campagnes, des régions, peut-être un retour vers des tenues traditionnelles locaux?
C'est une bonne idée. Il faudrait voir en France quelle est la tenue traditionnelle.
Alors, chez moi, à Arles, il y a l'arlésienne. Bon, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des tenues alsaciennes. Atmen, vous êtes albigeois, c'est quoi la tenue là-bas?
Oh, c'est plutôt la salopette et le béret.
Non.
Si, à Albi, on met beaucoup la salopette chez les paysans.
Je parle des tenues, je parle des danses locales. Je ne comprends pas comment tu te comportes. Dominique, merci.
Merci, Norbert.
À bientôt. À bientôt.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Christophe, cet ananas du Costa Rica chez Lidl, vous en pensez quoi?
Il est pas cher.
Ouais. Enfin, vous pensez qu'il a fait le voyage dans les soutes? Parce qu'il
a voyagé.
Il a un billet de première, parce que je sais pas, ils sont... Vous pensez qu'ils y perdent, ces cadeaux? C'est une entreprise philanthropique?
Oui. Et puis surtout, je pense que l'ananas a transpiré dans la soute.
Je sais pas, je vous sens ça, pas intellectuellement, je vous sens pas au... Il faut peut-être attendre 8, 9 heures.
10 heures.
On va dans la rue, Jack souvent se
Jack
balade.
Rue, pourquoi pas? Désolé.
Excusez-moi, je suis très pressé, je veux travailler là.
Jack, dans la rue?
Dans la rue?
Non, vraiment, excusez-moi. Non, je veux pas répondre.
Jack, dans la rue? Oui, bah pourquoi pas, oui.
Dis donc, Jack, Catherine, vous avez fait votre petit jingle, mon vieux.
J'ai pas tout à fait entendu parce que je suis dans une rue parallèle.
Alors vous êtes parti dans une rue parallèle. Parallèle, c'est une idée métaphysique de cette rue ou parallèle à quoi?
Écoutez, c'est les passages parisiens. Vous savez, ces rues horizontales, ces rues cachées qui sont d'ailleurs même pas pavées, elles sont carrelées. Et là, j'ai croisé la personne qui les nettoyait, donc c'est encore un petit peu humide. Mais j'ai croisé aussi beaucoup de choses dans les vitrines, hein, un loup avec des ailes, un loup avec un collier en diamant, enfin bon, pas mal de choses. Et puis, je suis avec le gardien du passage.
Oui, bonjour, je suis le gardien du passage Jouffroy.
Oui, bonjour, monsieur.
Donc, je m'occupe de l'ouverture du passage, donc.
Est-ce que vous...
Et alors, excusez-moi, Édouard, alors on va ouvrir le passage en direct.
Voilà, je fais l'ouverture du passage, côté rue Grange-Batelière.
Merci,
voilà.
Monsieur. Est-ce que vous faites aussi la fermeture ou est-ce que c'est un emploi qui est affecté à une autre personne?
Voilà, l'emploi est affecté à une autre personne parce que nous sommes deux gardiens, en fait. Un gardien le matin et un gardien l'après-midi. Moi, je fais l'ouverture du passage et mon collègue fait la fermeture.
Il est dans quel état, le passage, ce matin?
Il est impeccable.
Ouais. Alors on l'ouvre.
Oui, c'est vrai qu'il est nickel. On l'ouvre. On ouvre alors pour...
Voilà, oui.
Ah oui. Et en face, donc il y a le passage des panoramas avant, qui poursuit avec le passage Jouffroy.
Est-ce que l'ouverture du passage Jouffroy, c'est un grand moment dans la vie parisienne du lundi matin?
Oui, bien sûr, évidemment. Et alors, important pour que les gens puissent passer, beaucoup de gens qui travaillent, qui vont dans les bureaux, etc. etc.
Est-ce que vous, c'est jamais cérémonial, monsieur, vous êtes toujours seul, il n'y a jamais une fanfare ou quelque chose?
Ah non, pas encore. C'est pas prévu.
Vous l'aimez, votre passage Jouffroy? Vous y êtes attaché?
Je l'adore, oui. On peut le dire.
Alors, on vous laisse avec Jack ouvrir le passage Jouffroy. Vous aussi créez une intimité avec une rue, un passage. Adopter une avenue, embrasser un boulevard, donner rencard à une allée. Il faut que les êtres humains et les voies publiques se rapprochent dans une sorte de fraternisation du quotidien. Jack, souvent je vous laisse, j'aimerais que vous obteniez la phrase ce matin. Quand vous demandez à quelqu'un comment ça va, je voudrais entendre la phrase comme un lundi, d'accord?
Comme un lundi.
À tout à l'heure, Jack.
D'accord, c'est la mission.
Ah, votre mission, comme un lundi. Comment ça va? Comme un lundi, Thierry Paret. Ça c'était bon.
Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, a donc annoncé cette nuit sa démission après l'échec de son référendum qui visait notamment à limiter les pouvoirs du Sénat pour mettre fin à une instabilité chronique dans son pays. Le nom est arrivé largement en tête avec 60% des suffrages environ.
Autre vote... Si vous voulez réécouter ma très brillante interview de Dominique Reynier, notre politologue, c'était il y a 7 minutes, retournez il y a 7 minutes.
Autre vote hier, les Autrichiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président et ils ont élu l'écologiste Alexander Van der Bellen, c'est une surprise, à hauteur de 53,3%. Le candidat de l'extrême droite, Norbert Hofer, 46,7%, a reconnu sa défaite. Le résultat officiel du scrutin ne sera proclamé que dans la journée.
Thierry, incroyable, parce que j'en parlais il y a 6 minutes lors d'une très très bonne interview du politologue Dominique Reynier et je ne reçois que des bons échos. Très belle interview par Edouard Baird. Excusez-moi une seconde, Jean-Luc. Incroyable, les questions comme les réponses, tout était rythmé. J'ai tout compris, les voyelles, les consonnes. Pardon, allez-y.
Je ne suis pas sûr que vous ayez évoqué avec votre invité ça. Il se murmure, c'est un murmure insistant quand même, que Manuel Valls pourrait se lancer ce soir, 18h30, c'est précis, lors d'un déplacement à Évry en région parisienne. C'est ce moment qu'aurait choisi le Premier ministre pour annoncer sa candidature à la primaire du PS. Et donc, quitter Matignon, il pourrait être remplacé par Jean-Yves Le Drian ou Bernard Cazeneuve, respectivement ministre de la Défense et de l'Intérieur. Après un immense périple de 4 jours à travers 13 des 15 provinces du pays, la procession funéraire de Fidel Castro est arrivée à Santiago de Cuba hier, où ses cendres ont été enterrées. Représentant François Hollande, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal a salué sur place un monument de l'histoire, ce qui lui a valu une salve de critiques en France. Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, récupère en Nouvelle-Zélande après son évacuation d'Antarctique. Son état de santé ne lui permet pas encore de rentrer aux États-Unis. L'ancien astronaute, 86 ans, a été hospitalisé après avoir été évacué d'une station de recherche près du pôle Sud qu'il visitait avec un groupe de touristes. Gottlieb Neplu, l'auteur de bande dessinée, est décédé hier à l'âge de 82 ans, adepte du dérisoire, de l'absurde, de l'humour noir. Gottlieb avait créé des personnages très singuliers, de Guéluron à Super Dupont. Gottlieb restera associé à Vaillant, Pif Gadget, Pilote, La Rubrique à Braque et puis surtout bien sûr Fluide Glacial qui ne manquera pas de lui rendre hommage sans doute dans son prochain numéro. Sur Nova, c'est Richard Guettet qui va rendre hommage à Gottlieb avec une spéciale bookbox demain soir à partir de 21h. Le groupe énergétique chinois Seven Star Energy a entrepris de construire une réplique terrestre et grandeur nature du Titanic. Terrestre parce que cette réplique va rejoindre un parc d'attractions du Sichuan, où elle sera évidemment l'attraction principale. Nice a battu Toulouse 3-0 hier soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1 de foot. Auparavant, Marseille avait battu Nancy 3-0 et Rennes était venu à bout de Saint-Etienne 2-0. En dépit d'un nouveau pic de pollution prévu aujourd'hui dans la région parisienne, il n'y a pas de circulation alternée dans la capitale. La maire de Paris en avait fait la demande auprès de la préfecture, sans succès. Une nouvelle demande sera adressée aujourd'hui pour la journée de demain, qui s'annonce tout autant polluée que celle d'aujourd'hui. 8 degrés en moyenne au nord, c'est la température aujourd'hui. 14, 15, voire 16 degrés pour ce qui est du sud, et avec un petit peu de pluie du côté de Montpellier.
C'était bien, j'ai bien aimé Thierry Paret, le journal de 7h30.
Ouais.
J'ai des bons échos. Mais alors vous dites donc on va changer de Premier ministre, vous croyez là? Vous croyez qu'il va...
Moi je pense que oui.
Moi j'imagine un monde comme ça, la France et tout, les gens ne voudront plus du tout y aller. Genre il appelle Cazeneuve qui dit non, Le Drian non, et ensuite on baisse. Et ensuite on peut vous appeler, ça peut tomber sur chacun d'entre nous. Allez-y, je crois que c'est pas si antipathique que ça. Gottlieb est mort aujourd'hui à 82 ans. Moi j'étais un grand fan de Gottlieb. On va écouter Claude Villers, Pierre Arditi, Alain Chabat qui en parle, puis Gottlieb lui-même.
Gottlieb, vous êtes accusé de maintenir les enfants dans un infantilisme et également de vouloir que les adultes ne sortent jamais de l'enfance.
Dès qu'on me parle sérieusement, j'ai tendance à à sortir une connerie derrière, une vanne, un jeu de mots. Et d'ailleurs, ça doit agacer les gens au bout d'un moment.
Bah, Gottlieb, il est atypique, comme tous les gens intéressants.
Je pense que tous les mots m'aiment bien dessiner. Sauf que, au bout d'un moment, ça leur passe, alors que moi, ça m'est resté.
Pour moi, Gottlieb, en deux mots, quand je visualise Gottlieb, je vois un petit mec avec un accent parisien qui a la patate. Ouais, avec qui t'as envie d'être pote et boire des coups.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, coucou. Tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Interrompre Gottlieb qui chante du Brassens pour lancer la pub, c'est un genre d'humour noir très Gottlieb.
On est con. Entre vous, plus de controverses.
Elle va venir la pub, j'ai un problème technique.
Caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Magnifique résistance de Gottlieb à la pub.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
C'est très étonnant là, cette période politique. Donc si Valls, Évry, c'est la ville dont il était l'élu, s'il démissionne, donc après, peut-être que... Oui, c'est ça, il a 3 mois pour dire qu'il ne connaissait pas du tout Hollande. Alors, pas du qui c'est. Non, vous n'avez pas été Premier ministre. Oh, peut-être il y a très très longtemps. C'était... Alors, Atmen Kelly, ce n'est pas le sujet du tout.
Non.
Vous êtes allé au théâtre ce week-end, mais vous êtes allé pour nous, pas oui. Pour votre plaisir personnel.
Mais non, j'y suis allé pour vous, mais en même temps, c'est devenu un plaisir personnel.
Oui, mais alors, ce qui était bien en allant pour nous, c'est que votre ticket d'entrée, vous étiez remboursé.
Ah, exactement.
Par Radio 9.
J'ai été invité, même choyé, le tapis était brossé juste avant moi, le siège était confortable. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez vu,
Mémène ? Alors, j'ai vu la vie est une géniale.
Vous appelez Mémène, ça ne va pas faire un drame si je vous appelle Mémène.
Ah non,
Mémène.
Au contraire, j'adore. D'accord. Voilà, Mémène, Germaine, ce que vous voulez. La vie est une géniale improvisation. C'est une pièce que j'ai vue, qui est écrite et jouée par Bruno Abraham Kremer, sur la vie d'un philosophe musicologue du siècle dernier qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Voilà.
Vous appelez le siècle dernier, c'est horrible, c'est le 20e siècle.
Eh oui.
Ah, vous êtes vache.
Ah ben non, il est mort en 85. Alors voilà, sur scène, Jankélévitch.
Vous avez dit bon anniversaire ou pas, il y a 3 jours? Oui, vous m'avez dit. Oui, pardon, oui.
Il fallait pas le dire.
Si, alors allez-y, excusez-moi, pardon.
Non, il y avait une omerta là-dessus, il paraît.
Je vous interromps beaucoup.
Interrompez-moi. Alors donc, sur scène, il y a Bruno Abraham Kremer, qui est un acteur orfèvre. Il arrive avec sa voix, sa faconde, son petit physique de professeur de philosophie. Il est magnifique, il s'ouvre comme ça, comme un éventail. Et là, il nous balance la correspondance entre Jankélévitch et Louis Bauduc, deux philosophes. Et là, il nous fait part d'une philosophie comme ça dans sa correspondance qui parle de l'homme, de la conscience morale, de la mort. Alors ça peut être chiant au début, hein, on se dit oh là là, dans quoi je suis rentré. Et en fait, pas du tout. Le type dans cette correspondance vous raconte la vie d'un homme qui se bat pour la recherche de la pensée, comme ces matheux qui ferment pas l'œil pour un algorithme ou une équation à résoudre. Il est complètement fou, il est complètement enflammé et on voit pas et on devine, mais il ne se plaint jamais. On ne voit pas ni la guerre, ni la souffrance de ses origines, ni tous les conflits, ni les camps, ni tout ce qu'il raconte, la perte de sa chaire administrative là dans les lycées et dans les facs. Et le mec se plaint jamais, il a des problèmes de jeune père à 50 ans, de mariage raté, de conquête aussi qui sont un petit peu déstabilisées parce qu'il est toujours enflammé par la recherche philosophique.
Jankélévitch est l'auteur du je ne sais quoi, du presque
voilà,
rien.
Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a touché le plus cette semaine dans
ce qui m'a le plus touché, voilà, c'est qu'à un moment donné, il hurle à la salle que l'Allemagne, que outre-Rhin, il n'y a pas eu le pardon sur le massacre dans les camps, voilà, et il voudrait que l'Allemagne le pardonne. Le disent vraiment parce que les petits, c'est pas eux à demander le pardon, normalement ça aurait... Et il y a un type en Allemagne qui lui écrit une lettre bouleversante en l'invitant à venir en Allemagne.
C'est quelles années ça?
C'est dans les années 80.
Oui.
1980, et en 81, il est invité par un type qui lui écrit, venez chez moi, vous mangerez à la maison, on écoutera, on parlera pas de tout ça, on écoutera de la musique que vous aimez, Ravel, forêt, et vous irez en forêt, où vous irez vous promener avec ma famille, avec ma petite fille, blonde, qui aura les yeux bleus, que vous promènerez, et comme ça on fera la paix. Et cette lettre est écrite, elle est bouleversante. Vraiment, lui, il nous envoie vraiment des ondes comme ça de pardon dans la salle qui sont magnifiques. Moi, je voudrais juste le spectacle est incroyablement bien interprété. Hein, on va pas revenir là-dessus. Bruno Abraham Kremer, il a pas à faire ses preuves sur scène. Il est magnifique. Juste dire que Jean Kelevitch, il finit aussi par cette phrase qui nous hante quand on, spectateurs, on sort de la salle. Il dit, le diable n'est fort que de notre faiblesse, qu'il soit faible de notre force. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et surtout, il dit, Jean Kelevitch, à la fin, place aux ordinateurs et aux dieux business. En 75, il était déjà un espèce de Nostradamus, comme ça, de ce qui allait arriver. Il avait un petit peu abdiqué. Et voilà, il montrait l'évolution de nos sociétés occidentales dans le capitalisme technologique effréné. Voilà, quel devin.
Vous n'avez plus que quelques jours pour aller voir ce spectacle. C'est jusqu'au 11 décembre. On peut, après tout, vivre sans le je ne sais quoi, comme on peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour, mais pas si bien. Vladimir Jankélévitch, au Lucerne.
Jack, dans la rue?
Pourquoi pas?
Non, désolé.
Non, excuse-moi, je suis très pressé, je veux travailler. Là.
Jack, dans la rue?
C'est ça, Jack, votre jingle qu'a fait Catherine.
Ça y est, je l'ai entendu.
C'est ça, Jack, vous étiez au passage Jouffroy tout à l'heure.
Oui, j'ai marché, puis j'ai fait une rencontre un peu inopportune parce que il y avait un monsieur qui était en train de charger son camion de tripes et il a failli trébucher sur des plots, vous savez, des plots en béton par terre. Et voilà. Allô?
Oui?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur. Là, vous avez de la tripe, là?
Ouais, il reste un petit peu.
Et là, ça part sur où, la tripe? C'est de la tripe, qui arrive? C'est de la tripe qui part? Quel est le mouvement de la tripe, là, ce matin?
Elle vient de réagir, elle va chez les restaurateurs.
D'accord. Ça va être cuisiné comment, vous pensez? À la mode de Caen, avec des sauces au vin?
La tripe de mode de Caen, mais il n'y a pas que de la tripe, il y a de la viande rouge aussi.
Ah, il y a du filet aussi.
Hein? Il y a des andouillettes, il y a de tout.
Bon, et vous promenez plutôt en viande, vous promenez plutôt des abats, des bons morceaux?
C'est les abats, oui, c'est les abats.
Quel est le rapport que vous avez avec les abats? Vous, un peu d'affection ou vous en avez,
Une histoire d'amour.
Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est ce qu'on appelle la beauté intérieure chez quelqu'un, ce sont ses abats. Je suis bouleversé par cette phrase tout à coup qui est à... Monsieur,
Le silence était magnifique.
Ah, le silence qui suit, c'est encore de là-bas. Merci, cher monsieur. Faites-vous aider par Jack souvent parce qu'il est un peu fainéant, quoi. Faites-vous aider à porter.
Non, mais il est gentil comme tout. Il est souriant, il est gentil comme tout.
Moi, j'aime bien croiser les mecs qui transportent la viande le matin parce qu'ils ont. Alors, vous avez une blouse blanche pour pas vous salir?
Oui, j'ai une blouse blanche, pantalon blanc, chaussures blanches et casquette.
Alors, parfois, les enfants dans la rue sont effrayés de voir transporter la viande le matin.
Tout est emballé dans les cartons, caché. On voit pas la chair.
Vous avez une voix extrêmement sympa, monsieur.
Ah, c'est gentil.
On a envie de boire des coups avec vous. Je peux pas vous expliquer. Ça s'explique pas. Il y a des gens comme ça.
Bon. Alors, attendez, Edouard, quand même. Vous avez une mission.
Oui.
Vous avez... Alors, comment ça va, monsieur, aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est comme elle l'a dit. Hein.
Ouais, merci. Bravo. C'était la mission de dire comme elle a dit. Merci, monsieur. Merci, Jack. À tout de suite.
À tout.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Alors, les jumeaux Elsa et Raphaël, lequel est le jumeau de l'autre? C'est toi?
Oui.
Et toi aussi?
Oui.
Extraordinaire question, très bonne réponse. Vous aimez bien, vous avez déjà vu les gens qui transportent la viande crue le matin ou pas?
Oui.
Ça vous fait pas peur?
Non.
Non, c'est sympa, il suffit de la caresser, ça ne mord pas la viande crue. Alors Elsa et Raphaël, vous êtes venus, vous n'avez pas le même poème parce que peut-être vous n'êtes pas dans la même classe. Tiens, Christophe Méné, dans ce micro, oui. Vous êtes dans quelle classe? T'es en quelle classe, toi, Raphaël?
CM2.
Et toi, Elsa?
CM2.
Mais dans la même école?
Oui.
Et c'est pas le même poème?
Non.
Lequel est le plus content de son poème?
Moi.
Ah. Alors, on y va. Alors, qui veut commencer? Les filles. Ouais, merci, mon vieux. Alors, Elsa, on écoute.
Il pleure dans mon cœur.
Doucement. Rapproche-toi un petit peu, ma chérie. Vas-y. Tout doucement.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine, de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Paul Verlaine.
Eh oui, il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Raphaël, un poème de Prévert.
Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert.
Merci Raphaël. Christophe Méné.
Oui.
Vous avez été ce cancre, vous avez été aussi ce garçon mélancolique qui voyait la pluie comme une pluie intime, une pluie intérieure. Un jour même, vous pleuriez tellement que vous avez mis des essuie-glaces aux yeux. Ces deux poèmes vous ont replongé dans cette enfance qui est une maladie dont on ne sort que pour une maladie pire, qui est l'âge adulte. Vous avez aimé ce moment?
J'ai aimé ce moment. C'est vrai qu'il m'a replongé dans une espèce de mélancolie comme ça.
La mélancolie qui est le bonheur d'être triste. Hein, vous.
Qui est le bonheur d'être triste, oui, c'est vrai.
Vous l'imaginiez comme ça, Christophe Méniet, des enfants ou pas?
Non.
Non, non. Et on est déçus en bien, parce que c'est une splendeur, mon Méniet. Raphaël et Elsa, vous allez me foutre les camps, parce que vous avez école maintenant. Allez dire des poèmes chez des vieux pochetrons le matin, il n'y a pas que ça dans la vie. Je vous embrasse très fort, vous êtes super. Voilà, c'est l'école des fans. C'était l'école des fans de Paul Verlaine et Jacques Prévert. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
Il est 7h quasiment 58 pattes. J'ai l'impression que vous n'avez pas de clients au Café Nova aujourd'hui.
Il n'y a pas grand monde, Edouard. Il n'y a pas grand monde, effectivement.
Et quand il n'y a pas de live, les gens ne passent pas. Il faudrait créer des événements Nova. Aujourd'hui, rien. Venez nombreux.
Absolument, mais il faut leur dire qu'ils peuvent venir quand même, même s'il n'y a rien, parce que nous sommes là. Tu es là, Edouard, et l'émission est là. Et donc, ils prendront du plaisir à boire du café.
Et des croissants. Le grand plateau de 7h58. Ils épluchent la presse depuis ce matin pour vous en sortir la quintessence, la substantifique moelle. Christophe Méné et Atmen Khelif, messieurs, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pris quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Donc moi, dans Le Parisien, j'ai lu un article sur l'hiver en super forme. Voilà. Donc c'est difficile de se sentir bien. 2,5 millions de personnes sont touchées par la grippe. Donc leur conseil, le plein de vitamine D, hein, huile de foie de morue, sardine à l'huile des œufs. Et le régime, surtout créateur de bonne humeur, cornichons et choucroute.
Ah, c'est vrai que ça peut faire marrer.
Ah oui, ça
un cornichon, une choucroute, un éclat de rire. Oui, ça marche. Vous en avez mangé ce matin?
Oui, sur pleine bourre. 6 minutes de marche par jour, on s'hydrate bien.
6 minutes, il faut les trouver.
Ah ben,
c'est parce qu'avec la vie qu'on mène,
c'est d'aller du canapé au frigo, du frigo au canapé, ça fait 6 minutes.
Donc ça, ce sont les conseils santé pour l'hiver, Christophe Méné.
Voilà les petits conseils santé.
Merci beaucoup, Atmen. Vous avez vu quoi?
Alors moi, c'est beaucoup plus sérieux. Hier, il y a eu une boulette. La boulette. Kev Adams a posté sur son compte Twitter une photo de lui avec un énorme postiche, comme ça, un peu comme Pat, avec d'énormes cheveux, une tête un peu d'hirsute, une tête vraiment très très folle. Et ses followers, il en a 1,5 million, ont dit stop, arrêtez, qui sait, c'est affreux, tout ça et tout. Et vraiment, les gens l'ont trouvé très, 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 très laid. Il a dû la déposter et expliquer à Stéphane que c'était pour
J'ai pas compris.
C'est les gens qui le suivent, c'est followers.
Non, mais j'ai pas compris. À qui il a dû s'exprimer auprès d'eux?
Je veux leur dire, à Stéphane Zouz.
J'ai pas compris ce que vous disiez.
C'est les gens qui le suivent, c'est fans.
C'est followers. Mais vous n'avez pas dit ce mot-là, vous avez dit.
Moi, je me suis anonymisé un petit peu, j'ai dit fanzouz.
Vous avez dit fanzouz.
J'ai dit fanzouz.
Moi, j'ai pas rêvé.
Il a dit.
Mais c'est grave.
Je l'ai pensé.
Non, mais attention.
C'est grave.
Attends. C'est très grave.
Ah bon?
C'est très grave.
Mais pas du tout.
Non, dis donc. Baisse les yeux.
Oui, mais c'est pas grave.
Non, si, c'est grave. Je ne respecte pas.
Il y a plus grave que ça.
Tu sais pas ce que c'est du tout que la vie des gens qui n'ont peut-être pas envie d'entendre ce mot-là à 8h du matin.
Bah peut-être, mais bon.
Bon, alors le journal de Tipperet, je suis très déçu.
Radio Nova. Ah,
c'est grave, c'est très grave.
Oh, mais tu l'as, ton truc.
Manuel Valls pourrait se lancer ce soir, 18h30 précise, lors d'un déplacement à Évry, dans l'Essonne, en région parisienne. C'est ce moment qu'aurait choisi le Premier ministre pour annoncer sa candidature à la primaire du PS. Et donc quitter Matignon, il pourrait être remplacé par Jean-Yves Le Drian ou Bernard Cazeneuve, respectivement ministre de la Défense et de l'Intérieur. C'est cette nuit qu'a choisi Matteo Renzi pour quitter le pouvoir. Le président du Conseil italien a annoncé sa démission après l'échec de son référendum, qui visait notamment à limiter les pouvoirs du Sénat pour mettre fin à une instabilité chronique dans son pays. Le nom est arrivé largement en tête, hein, avec 60% des suffrages. Le président du Conseil italien était soutenu par l'ensemble des capitales européennes ainsi que par les marchés financiers. Ceci explique d'ailleurs peut-être cela. C'est hier soir qu'a choisi Norbert Hofer pour reconnaître sa défaite. Le leader de l'extrême droite autrichienne a perdu. Il a été battu par le candidat écologiste Alexander Van der Bellen. Ce dernier a obtenu plus de 53% des suffrages. Le résultat officiel du scrutin ne sera proclamé que dans la journée, même si les fonctions de président de la République catholiques autrichiens sont essentiellement protocolaires. Une élection de Norbert Hofer aurait constitué pour la première fois l'arrivée d'un candidat d'extrême droite à la tête d'un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un rapport rédigé le mois dernier, Europol affirme que de nouveaux attentats du groupe État islamique pourraient survenir en Europe, notamment en France, en Belgique et en Allemagne, et que l'usage de voitures piégées est désormais à redouter. Comment aider l'Algérie à faire face à la chute des prix du pétrole qui plombe dangereusement ses comptes publics? Eh bien, Moumia Meslem, la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, a eu une idée. C'est-à-dire que les femmes mariées, cadres de la fonction publique, pourraient céder leur salaire à l'État, puisqu'elles ont un mari pour les entretenir. En poste depuis 2013, la ministre a détaillé très sérieusement sa proposition à la télévision. Et parmi les nombreuses réactions, on notera celle du site parodique El Manchad, qui préfère en rire en proposant une mesure supplémentaire. Les femmes mariées dont les maris ont des reins doivent faire don des leurs à l'État. C'est une affaire qui a secoué la Finlande ce week-end. Un homme a abattu trois femmes dans la ville d'Imatra. Les trois victimes sortaient d'un restaurant au moment du drame. Il s'agissait d'une élue de la commune et de deux journalistes. L'interrogatoire du tireur hier n'a pas laissé clairement apparaître le mobile de son triple homicide. La Finlande connaît une criminalité relativement faible par rapport à d'autres pays européens, mais ses habitants, amateurs de chasse, sont parmi les plus grands possesseurs de fusils au monde. Après un immense périple de 4 jours à travers 13 des 15 provinces du pays, la procession funéraire de Fidel Castro est arrivée à Santiago de Cuba hier, où ses cendres ont été enterrées. Gottlieb n'est plus, l'auteur de bande dessinée est décédé hier à l'âge de 82 ans. Adepte du dérisoire, de l'absurde, de l'humour noir, Gottlieb avait créé des personnages très singuliers, de Guéluron à Super Dupont. En passant par le professeur Burp, Isaac Newton ou encore la coccinelle, le nom de Gottlieb restera associé à Vaillant, Pif Gadget, Pilote, la rubrique à braque bien sûr, et puis surtout Flic Glacial qui ne manquera certainement pas de lui rendre hommage dans son prochain numéro. Sur Nova aussi, on va s'y mettre, c'est Richard Guettet qui va rendre hommage à Gottlieb avec une spéciale bookbox demain soir à partir de 21h. Nice a battu Toulouse 3-0 hier soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1 de football. Auparavant, Marseille avait battu Nancy 3-0 et Rennes était venu à bout de Saint-Etienne 2-0. Classement Nice est en tête, 39 points. Monaco est deuxième, 36 points, et le PSG est 3e, 35 points. La prochaine journée opposera notamment le PSG à Nice. En dépit d'un nouveau pic de pollution prévu aujourd'hui dans la région parisienne, il n'y aura pas de circulation alternée à Paris. La maire de la capitale en avait fait la demande auprès de la préfecture sans succès. Une nouvelle demande sera faite aujourd'hui pour la journée de demain qui s'annonce tout aussi polluée que celle d'aujourd'hui. Ce qui nous mène évidemment direct à la météo. 8 degrés en moyenne au nord aujourd'hui, ce sera les températures les plus hautes. 14, 15 voire 16 pour le sud, 16 c'est plutôt du côté de Marseille et il va sans doute pleuvoir du côté de Montpellier.
Merci Titi.
Bah de rien.
On vous appelle Titi, j'ai vu.
Certains, oui.
Et alors après, vous faites passer des notes internes pour que ça cesse, ce genre d'abus.
Non, j'ai pas fait ça encore, mais c'est vrai que ça peut.
Il y a des notes.
Enfin, maintenant, c'est trop tard là.
On va revenir à Monsieur Paris. Merci Thierry, merci. Jack, vous êtes parti ce matin arpenter les rues de Paris. De quoi on parle ce matin dans la rue? Est-ce qu'on parle des élections en Autriche? On parle de l'Italie? On parle de Manuel Valls? On parle du temps? On parle de quoi? Du foot?
Voilà, il y a des travaux en équipe, ça astique le trottoir. Je voulais parler à un chef, mais il a pas vraiment voulu. Puis là, je m'approche d'une dame qui est en train de fumer. Bonjour madame. Ouais. Donc elle est en train de lire la presse, là.
Oui, exact.
Mais alors vous lisez la presse d'une main, vous fumez de l'autre, c'est beaucoup d'occupation sitôt quand même.
Alors, elle est en train de mettre le casque, voilà. Oui. Et maintenant, vous allez pouvoir répéter votre question.
Non, ça n'était pas non plus. C'était pas.
Le voile se lève sur quoi?
Comme l'islamophobie. Oui, tout à fait.
C'est dans quoi? Dans quel journal?
Dans le 20 minutes.
Ah, donc 20 minutes, c'est distribué à la sortie du métro?
Ouais, exact.
Et là, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez direct à des pages sport, spectacle, politique?
Non, ce genre d'articles où elles se laissent de l'islamophobie. Non, la politique, non, merci.
Quand vous avez lu le journal, vous en sortez plutôt de bonne humeur, de mauvais poil ou...
Je viens de commencer, mais en général, tous les journaux, on est de mauvaise humeur après.
Non, mais alors, et faites-vous aider avec Jacques. Lisez-le un petit peu en direct avec Jacques, là.
Pardon ?
Alors, on va le lire un petit peu en direct, le journal.
Ouais, mais moi, je vais commencer à travailler, là. Je pense pas que...
Vous bossez où, madame ?
Je bosse à FBF.
Je sais pas ce que c'est.
C'est la Fédération des banques françaises.
Ah ben, on y va avec vous. On y va avec vous.
Ah non, non.
Mais si, mais
bon. Non, parce que moi, je suis prestataire. Je suis pas partie de la société. Je suis prestataire, je travaille chez eux, mais je ne suis pas partie de la société.
Vous pouvez pas venir nombreux ?
Je peux pas rentrer dans les locaux avec vous, non.
À partir de quel poste on peut avoir plus 1 sur son invitation ou sur sa feuille de travail?
Pardon?
Les cadres ou les cadres sub, ils ont le droit d'inviter des gens, de faire des repas?
Ah, je sais pas.
Il y a une salle à manger là-haut avec des...
Non, je pense pas.
Avec des repas en sauce ou des desserts?
Je pense pas, non.
Bon, vous souhaite une très bonne journée, ça va bien se passer.
Merci
ou ça
également.
Bonne
journée à vous.
On vous fait un bisou par l'entremise de Jacques Souvent, qui est l'embrasseur officiel de l'émission.
Oui, J'ai embrassé. D'ailleurs, le fil s'est pris au pied. Ça va? Tombez pas. Hein. C'est bon? Bonne journée. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était des rencontres un peu... Le matin, il ne faut pas trop les énerver. Hein,
non. Non plus. Il n'y a pas de raison.
Voilà, il n'y a pas de raison.
Mais le soir non plus.
Je continue d'avancer. Le jour se lève, ça y est.
À tout de suite, Jack.
Année, mais ça se lève.
Continuez d'avancer vers votre destin. Embrassez une femme.
Je lis sur le camion, trier sans vous tromper. Trier sans vous tromper.
Trier sans vous tromper. Tromper sans trier. Crier gare. Arriver à la gare. Prendre le train, le premier train qui nous mène vers une femme qui monte vers une banque. On n'est que prestataire. La prestation consiste en quoi? Quand s'arrête-t-elle? Où commence le statut cadre qui nous mettra des points de retraite supplémentaires? Où la vie commence? Peut-on vivre avant de mourir? Peut-on sortir du métro, lire 20 minutes et en sortir souriant et heureux? Ce sont tous ces petits destins, tous ces petits moments qui font la vie d'un homme et d'une femme. À tout de suite, allez embrasser Jack, allez embrasser le matin, pleine bouche. Allez, file grand, vas-y.
7h, 9h, plus près de toi.
Je ne peux pas, Stéphane me demande si j'ai vu à voix haute le documentaire sur le concours et le cancer. Je vais le voir en replay ce soir parce qu'il est jusqu'à demain midi.
Exactement.
Sur le site de France 2, à voix haute, c'est ce documentaire qui retrace l'aventure d'Eloquentia, ce concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Ça s'est bien passé, vous avez des bons échos? Moi plein, hein. Je ne l'ai pas encore vu mais je sais que c'est bien.
Et pourtant tu fais une prestation dans le film, donc... Alors, c'est un argument en plus.
tu crois que je vois pas assez ma gueule dans la joie. Alors, rappelons un peu, Stéphane de Freitas, bonjour. Je réembourgeoise cette interview. Ibrahim Meshkouri, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été finaliste 2014 du concours Eloquentia Saint-Denis.
C'est ça.
De quoi s'agit-il? En quoi consiste ce concours, Stéphane de Freitas ou Ibrahim Meshkouri? Qui veut en parler?
Je me lance.
Oui. Vas-y, Stéphane.
Allez. En fait, l'idée du concours, c'était... d'ancrer en Seine-Saint-Denis dans un contexte où on entend partout en France qu'on est en crise sur la liberté d'expression, qu'on ne peut pas se parler les uns aux autres, de créer un concours autour de trois valeurs principales. Le respect profond des opinions des interlocuteurs qui au cours de ce concours d'éloquence, assumeraient telle ou telle position sous la forme, sous quelque forme que ce soit, slam, rap, poésie, alexandrin. L'écoute et aussi la bienveillance, c'est-à-dire que dans l'arène, tout le monde peut prendre son parti pris et on est dans un élan positif. Les jurys sont pas là pour discriminer, casser, mais pour conseiller dans les premiers tours. Et puis après, vers les phases finales, ça devient un peu plus une fête de l'éloquence et du mot. Mais voilà, c'est dans ces valeurs, autour de ces valeurs. Et puis le concours a pris de l'engouement, il y a eu de plus en plus d'engouement. Des jeunes du département par centaines qui assistent les soirs de finale au concours. Et une célébration de la parole, comme il me semble, on en fait rarement dans le pays, et pourtant on est en plein cœur du 9-3.
Ibrahim Meshkouri, est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup de gens, que grâce aux mots, la contradiction peut être entendue, peut être débattue, sans en arriver au point dans la gueule, qui est souvent le dernier argument quand on n'a plus les mots?
Bien sûr. Et ce que j'aimerais ajouter à ce sujet-là, c'est que dans le concours Eloquentia, parfois on défend des positions qu'on ne défendrait même pas dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on nous donne un sujet, qu'on a la positive ou la négative qui est imposée, et que du coup on doit un peu se débrouiller, se battre un peu avec ce sujet pour en tirer le meilleur, pour en tirer quelque chose qui nous ressemble, parce que l'éloquence aussi c'est la sincérité. L'année où j'avais fait le concours et la formation, on avait eu la chance d'avoir Robert Badinter qui était venu intervenir, et ce qu'il avait dit, le propos qu'il nous avait tenu en une phrase, c'est que l'éloquence c'est avant tout la sincérité du propos. Et même en défendant, même en étant sur un sujet sur lequel, avec une position qui ne nous plaît pas au premier abord, on peut retourner, trifouiller le sujet de manière à le traiter de manière sincère par la parole, par les mots.
Alors la sincérité et aussi le jeu, c'est une tradition anglaise. Dans les facs anglaises, il y a beaucoup de concours comme ça. Alors ils débattent sur des choses délirantes. Moi, j'avais assisté à un débat sur la reine d'Angleterre existe-t-elle, avec des mecs vraiment qui avaient des opinions très tranchées là-dessus. Stéphane et Ibrahim, je vais vous demander de débattre sur le thème. À votre avis, est-ce que Stéphane de Freitas fait tout ça pour s'en foutre plein les poches? Stéphane, vous défendrez l'opinion. Oui, je veux d'abord m'en foutre plein les poches. Et Ibrahim, vous serez son avocat.
Très bien.
Stéphane, donc des millions, des milliards, des comptes en Suisse à la suite de la création de ce concours d'éloquence.
Voilà, exactement. En fait, détourner l'argent public, c'est vraiment l'idée originelle de ce projet. D'ailleurs, mon vol pour le Panama est prévu à 17h, donc ce soir...
Oui, c'est la force de votre mission, c'est que détourner l'argent privé ne suffit plus. La grandeur, la beauté de votre mission, c'est d'aller vraiment prendre l'argent à la source, c'est-à-dire dans l'état de l'argent qui irait peut-être dans des assos. Qu'en pensez-vous, Ibrahim ?
Non, mais ce que dit Stéphane, quand il critique Stéphane, c'est que... tout ce concours d'éloquence, toute cette beauté qui sort de la parole, au final, elle peut être monnayée. Et quand elle est monnayée, elle doit profiter aux plus nécessiteux. Et Stéphane, bien qui sûr. Est en face de nous, là, tout de suite, ressemble à...
un nécessiteux. Voilà,
ça,
un nécessiteux.
C'est vrai que tu vas dire.
Ça sent la misère. Hein. l'argent, ce n'est pas sale. N'ayez pas honte. Alors, ce soir, il y a un grand événement, les gars, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors ce soir, en fait, c'est la soirée de lancement du concours Eloquentia. Donc chaque année, au mois de décembre, on fait une soirée où on invite en général des artistes, des comédiens qui ont déjà participé au concours emblématique. Ça pourrait être vous, Edouard, notamment.
Alors c'est où, à quelle heure ?
Alors c'est à Saint-Denis, à 20h.
Bon, je vais y aller alors.
Admène,
Julien,
j'ai que ça à foutre.
J'emmène Admène. Alors 19h, c'est où ? C'est à l'université Paris 8 ?
À l'université de Saint-Denis, Paris 8 à 19h. Voilà.
Est-ce qu'il y a un buffet ?
Non, il y a un accès libre, oui. Comment ça se passe ?
Voilà, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Il faut venir tôt parce qu'il n'y a que 500 places dans l'amphi. Il y a apparemment 900 personnes qui veulent venir ce soir. Bon. Mais on regarde la logique du premier arrivé, premier servi.
Et ça lance le nouveau programme pour 2017.
Voilà, alors en fait ce qui se passe, c'est que samedi il y aura le recrutement pour la formation Eloquentia, c'est-à-dire qu'avant de participer au concours, 30 étudiants ont la possibilité, en janvier, en février, de suivre 60 heures de formation à la prise de parole. Et aussi à l'insertion pro, c'est-à-dire qu'on commence la formation, on leur demande quel est le job que vous aimeriez faire, puis il y a la formation qu'on voit dans le film à voix haute, qui se met en place, on les forme à la prise de parole, et à la fin... On est en mars, début du concours de prise de parole, ouvert à tous les jeunes de la Seine-Saint-Denis. Donc il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans, habiter la Seine-Saint-Denis, on peut participer au concours, qu'on soit ou non à la fac. Et bien entendu, dès lors qu'on est étudiant de la fac, qu'on soit du 9-3 ou pas, on peut participer au concours. Donc ce soir, c'est la soirée de lancement.
On va sur le site Eloquentia ?
Eloquentia-Saint-Denis, voilà.
Le mieux, c'est en fait d'aller sur Facebook, de taper Eloquentia-Saint-Denis, et là, il y a toutes les infos et toutes les mises à jour qui
sont... Non, mais ne m'explique pas ce qui est mieux. D'accord. Bon, messieurs, on a été bon, hein, on a été clair, on a été succinct, on n'a pas dérapé, on n'a pas débordé, on est resté dans le temps imparti.
C'est sûr, on est complètement dans le temps imparti.
Merci, messieurs. On est Eloquentia, le site, le Facebook, tout ça, sur LinkedIn, j'adore ça. Menez, la première heure qui est tendue, je trouve.
Je ne suis pas tendu.
Je trouve que tu devrais arriver une demi-heure plus tôt parce que tu as la voix stressée. Mais... Et la première heure, les auditeurs trouvent que tu es stressé.
Excuse-moi, mais enfin, Admen n'est pas mieux non plus. Pourquoi tu t'en prends à moi stressé?
J'ai de très bons échos sur mon travail.
Vous êtes bien le seul.
J'ai des fans zous.
Pardon.
Il est 8h21. Je le dis parce que c'est important. Le matin, la vraie information, quand on est chez soi, c'est l'heure. Le reste, tout sort. Marie Missé.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie Missé.
8h21, donc bonjour Edouard, bonjour Armel.
Bonjour,
Atmen,
bonjour
la France. Aujourd'hui, à la une des journaux, on regrette le génial Gottlieb. En une de Libé, Manuel Valls s'affiche sur La Croix et dans Le Figaro. L'Humanité revient sur la décision de François Hollande de ne pas être candidat. Et Le Parisien titre sur le grand désarroi du peuple de gauche. Sylvie Kaufmann, dans un édito du Monde, rebondit sur ce désarroi. Elle écrit « Ces jours-ci, pour un journaliste ou un chercheur, voyager à travers le vieux continent pour enquêter sur le débat politique tient de la visite comparative d'unités de soins palliatifs. Pour les partis progressistes d'Europe, il est temps de se frotter à l'air du temps qui suinte la colère et le désarroi donc. Et il faut maintenant suivre l'intuition d'une des légendes de la Silicon Valley. J'ai nommé Andy Grove qui dit « Seuls les parano survivants. Être paranoïaque, c'est ne tenir aucun succès pour acquis et réaliser que le succès recèle en lui-même les germes de sa propre destruction. Ne pas croire que la démocratie est un acquis. Pour commencer, Sylvie Kaufmann cite deux chercheurs américains un peu flippants qui ont dressé une liste de critères selon lesquels on peut juger le degré de menace qui pèse sur un régime démocratique. La France les coche tous. Et elle est loin d'être la seule. Alors, on a longtemps considéré qu'une presse libre était garante de la tenue d'une démocratie. Or, aujourd'hui, si l'on en croit Guillaume Erner dans Charlie Hebdo, même quand la presse est libre, elle ne convainc de toute façon plus. Dans un article que je ressors des limbes de la mi-novembre, c'était le 16, mais qui est en ligne sur le site de Charlie, donc vous pouvez retrouver, Guillaume Erner estime que le problème n'est pas tant que les journalistes se sont coupés du monde, mais que le monde s'est coupé des journalistes. Malin, l'article est d'ailleurs titré tout à fait ironiquement « Pourquoi il faut haïr les journalistes ? De l'art d'attraper du clic sur Facebook, d'attraper le badaud en quête de haine et d'espérer le retourner comme une galette de sarrasin. » Le monde s'est coupé des journalistes donc, et le refus de Donald Trump de s'adresser à ces mêmes journalistes est décrypté dans un court article de Libé qui s'appelle « Donald Trump ubutweet ». Ça symbolise bien le peu de crédit accordé au pouvoir des médias. Donald Trump ne fait plus de conférences de presse, il ne s'exprime que via Twitter ou YouTube directement, un moyen selon lui de se battre contre la mauvaise et inexacte couverture des médias. Un article de sang-froid. Sang-froid.
Non, c'est bien.
Sang-froid.
Mais bien, vous pouvez créer vos petits mots à vous.
Sang-froid, donc revue consacrée à la justice, à l'investigation et au polar, conclut cette courte réflexion matinale et ça fait justement très froid. On y trouve l'interview exclusive de Andrés Sepúlveda, un hacker qui a travaillé en sous-main sur la plupart des élections en Amérique latine ces dernières années. Il est, selon la revue, l'homme qui a le plus influencé l'orientation politique de la région ces 10 dernières années. Et son point fort entre deux espionnages d'opposants, c'est la manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux. Dans cette interview que je vous recommande de lire en entier, voilà ce qu'on lit entre autres à propos du hacker Andrés. Je lis, ça va être long, attention. Quant à Sepúlveda, il comprit que ces mêmes électeurs faisaient confiance à ceux qu'ils prenaient pour l'expression spontanée de vrais gens sur les réseaux sociaux, bien plus qu'aux experts dont les commentaires étaient diffusés par la télévision et dans la presse. Il rédigea alors un logiciel, Social Media Predator, pour diriger et gérer une armée virtuelle de faux comptes sur Twitter. Il finit par découvrir qu'il pouvait manipuler le débat public aussi aisément que l'on déplace les pions sur un échiquier. Quand je me suis rendu compte que les gens croyaient davantage à ce que dit Internet qu'à la réalité, j'ai découvert que j'avais le pouvoir de leur faire croire à peu près n'importe quoi. C'est ce qu'il lâche donc dans cette interview à lire dans le Nouveau Sang-Froid.
Merci Marie Missé. Marie Missé, vous proposez tout à l'heure pour vous en tirer d'être paranoïaque. Eh bien moi je vous propose d'être pronoïaque. Sachez qu'il y a un complot secret de gens qui vous veulent du bien.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est très bien, c'est quoi ça ?
Mild High Club.
Ah oui, c'est bien, c'est agréable. Alors 8h30, faut pas déconner, c'est le moment, c'est le journal le plus écouté de la journée. Méné, c'est vous qui le faites ou pas ?
Non, pas du tout, c'est Thierry.
Matman, tu veux ? Tu n'en es pas capable. Cette modestie, cette humilité, ça fait toi un grand homme. Thierry Paret.
Du coup, je vais le faire alors. On va quand même attendre son annonce officielle, mais bon. Personne n'en doute ce matin, c'est très clairement ce soir, à 18h30 précise, lors d'un déplacement à Évry dans l'Essonne, en région parisienne donc, que Manuel Valls, c'est son fief, va annoncer sa candidature à la primaire du PS et donc quitter Matignon. Il pourrait être remplacé par Jean-Yves Le Drian ou Bernard Cazeneuve, respectivement ministre de la Défense et de l'Intérieur.
Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que c'est privatisé ? Est-ce qu'il y a une guest list ? Est-ce que c'est assis ? Est-ce que c'est placé ? Y a-t-il un buffet ? Y a-t-il des boissons chaudes alcoolisées ? Y a-t-il des rencontres ? Y a-t-il des présences féminines célibataires qui souhaitent rencontrer des animateurs radio, comédiens, mannequins. S'il n'y a pas ça, on n'y va pas.
Je ne sais pas en fait. Les Italiens votaient hier par référendum, donc il s'agissait d'entériner une proposition de Matteo Renzi pour limiter les pouvoirs du Sénat afin de mettre fin à l'instabilité chronique du pays. Le président du Conseil italien a été désavoué, le non l'a emporté à hauteur de 60%. Il a donc annoncé, comme il l'avait dit avant, sa démission dans la nuit, un peu après minuit. L'extrême droite autrichienne se réveille avec la gueule de bois ce matin. Son leader, Norbert Hofer, a échoué dans la course à la présidentielle. Le candidat écologiste Alexander Van der Bellen l'a devancé avec plus de 53% des voix. C'est plutôt une surprise. Le résultat officiel du scrutin ne sera proclamé que dans la journée. Dans un rapport rédigé le mois dernier, Europol affirme que de nouveaux attentats du groupe État islamique pourraient survenir en Europe et notamment en France, en Belgique ou en Allemagne et que l'usage de voitures piégées est désormais à redouter. Après un immense périple de 4 jours à travers 13 des 15 provinces du pays. La procession funéraire de Fidel Castro est arrivée à Santiago de Cuba hier, où ses cendres ont été enterrées. Représentant François Hollande, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a salué sur place un monument de l'histoire, ce qui lui a valu une salve de critiques en France. Je crois que c'est Jean-Pierre Raffarin qui parle ce matin d'une erreur grave, par exemple. Galluron et Super Dupont, pour ne citer que ces deux personnages, sont orphelins. Gottlieb s'est éteint hier, adepte du dérisoire, de l'absurde, de l'humour noir. Gottlieb avait 82 ans. Son nom restera associé à Vaillant, Pif Gadget, Pilote, la rubrique Abrac et puis bien sûr Flux Glacial. Richard Guettet va rendre hommage à Gottlieb sur Nova demain soir avec une spéciale bookbox à partir de 21h. Le groupe énergétique chinois Seven Star Energy Investment a entrepris de construire une réplique terrestre et grandeur nature du Titanic. Terrestre parce que cette réplique va rejoindre un parc d'attractions du Sichuan. Elle en sera évidemment l'attraction principale. L'éditeur japonais de la superstar Haruki Murakami a annoncé la sortie de son prochain roman pour le mois de février. Au Japon, uniquement pour le moment. Alors évidemment, secret oblige, ni le titre, ni le thème, ni même la couleur de la couverture n'ont été dévoilés. Ce nouveau roman pourrait être composé de 2000 pages et donc divisé en deux tomes. Le tribunal arbitral du sport va rendre son verdict aujourd'hui, son verdict à propos de Sepp Blatter. L'ancien président de la Fédération internationale de football a été suspendu par cette dernière pour 6 ans. Nice 39 points, Monaco 36, le PSG 35, c'est le podium de la Ligue 1 de football ce matin. Hier, en clôture de la 16e journée, Nice a battu Toulouse 3-0, Marseille a battu Nancy 3-0 aussi, et Rennes est venu à bout de Saint-Etienne 2-0. Prochaine journée, le week-end prochain, elle opposera notamment le Paris Saint-Germain au leader, les Niçois. Il n'y aura pas de circulation alternée aujourd'hui à Paris et pourtant on va vivre un nouveau pic de pollution dans la capitale. Une nouvelle demande de la mairie sera déposée tout à l'heure, là, pour la journée de demain, qui s'annonce tout autant polluée, mais pas sûr, évidemment, que la préfecture accepte. En dépit d'un nouveau pic de pollution, mais je viens de le dire, ça, on va peut-être pas se répéter non plus.
Si, c'est joli, il faut pas hésiter.
Non, mais on peut parler de la météo très rapidement. Il va faire 8 degrés en moyenne aujourd'hui sur le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus de la Loire, on va dire. En dessous, ce sera plus proche des 14-15. Enfin, c'est plus sur le pourtour méditerranéen, on va dire 15 degrés du côté de Marseille, par exemple. Et il va pleuvoir, sans doute, du côté de Montpellier.
Merci. Thierry Paret, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'au début de ce journal, vous avez dit « les Italiens votaient hier » ?
Oui, j'ai dit
ça. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qui me semble. Atmen Khelif, bonjour Atmen Khelif.
Bonjour.
Vous êtes placeur de liaison dans les phrases françaises. Vous intervenez en radio, en télévision, à l'école et dans les conversations privées. Pour chaque liaison prononcée, vous touchez.
Je touche.
Vous touchez une somme d'argent.
Je touche un euro.
Quand Thierry Paret a pu dire les Italiens votaient hier, vous n'auriez rien touché.
Oui.
Et là, il a dit vous votez hier. Et là, bling, pan, c'est parti dans la pique cagnotte à papa.
Je prends carrément in the pocket.
In the pocket. Alors par exemple, vous êtes content quand il y a des pluriels parce que vous avez
peux placer mes petits.
Les poulets à la crème, mais par contre, si on dit le poulet à la crème, non.
Redites-le, vous
les poulets à la crème. Oh, il y avait ce matin, j'ai mangé un poulet à la crème, là non.
Ah non,
bah non la poulet
faute.
À la crème. Faute.
Faute.
Qu'est-ce qu'il y a comme liaison, par exemple, en ce moment qui marche bien?
Alors, chez Molière, par exemple, qui est, comment dirais-je, un petit peu le fer de lance de la bonne, très bonne liaison, je dirais vos ondes ont des galantes et doux qui laissent de bien loin votre torrent après vous.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est sur le verre.
Non, tu vois, je te dis, Atmen, tu ne le tiens pas le personnage. Le sketch n'est pas tenu. Non, parce que dans ces cas-là, il y a rire et chanson, il y a plein de rires. Tiens, il faut le tenir.
Rire zé, sans son.
Non, il n'y a pas de tenue.
Il faut dire. Vous n'avez pas fait la liaison.
Vous
me savez la planche, monsieur. Vous en êtes un autre.
On part à Toulouse. Fais-moi un petit jingle, on part à Toulouse, Armel. Mets-moi trois notes de musique que ça fasse une émission sérieuse organisée. On part pour Toulouse.
Pour Toulouse ?
Non, sors de ce micro. Toulouse, au marché Gare de Toulouse, nous sommes avec Marion. Marion, des plateaux de fruits et légumes de ces 11. Comment ça se passe ce matin à Toulouse ?
Et je bois un café, là.
Ah, évidemment. Alors, on n'est plus dans le cadre de l'échange client-vendeur. Là, on est...
Non. Bon, ça va, Edouard ?
Oui, comment ça va, Marion, ce matin ? Alors, qu'est-ce qui est parti ? Qu'est-ce qu'il y a comme légumes d'hiver ?
Alors là, épinards, choux, tout ce qu'on aime. Hein.
Allez, on y va.
Radis, patates, carottes.
Est-ce qu'il y a un légume bonne humeur, un légume santé ? Est-ce que le chou fait du bien ?
Mais oui, tous font du bien. Tous les légumes, une soupette. Qu'est-ce que t'as mangé ce week-end ?
Ce week-end, moi j'étais sur des viandes. Je suis parti en... Ah, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis fait livrer une pizza. C'est pour dire comme ma vie est marrante en ce moment. Hier soir, je suis parti sur une livraison de pizza. C'est vraiment
comme diraient mes clients. Moi, ce que j'aime dans les légumes, c'est la viande. Donc autant te dire que. Donc il y a pas de souci à manger de la viande le week-end.
Alors est-ce que quand ils viennent le matin, tu leur remontes un peu le moral aussi ?
Oui, j'aime bien. On a vraiment un échange au top avec cette clientèle. Je les adore.
C'est des habitués. Ils te font confiance.
Oui, ouais, c'est des habitués qui sont là, en fait, c'est sans engagement, mais ils sont quand même là chaque semaine. Ils ont un humour au top, ils ont la patate, donc ça se passe super bien. J'ai des bonjour, merci, s'il vous plaît.
Tout de suite, d'entrée de jeu, bonjour, merci, s'il vous plaît. Ça attaque pas.
Mais il faudrait que t'appelles quand je suis avec eux.
Mais je peux pas savoir, Marion, j'ai pas une petite caméra sur ta tête. Marion, est-ce que tu arrives à fourguer ces fameux légumes oubliés?
Oui. Très bonne liaison.
Merci. Don Millo disait, les légumes oubliés, il faut continuer à les oublier. Toi, tu penses qu'il faut se les rappeler, les légumes oubliés ou pas?
on va s'y remettre au bout du jour. Là, là, je suis en train de mettre du salsifis.
Ah, le salsifis, ça rappelle la guerre. Ahmed qui avait fait la guerre du mauvais côté en 42. Topinambour, salsifis, c'est la joie dans l'assiette. Il n'y a pas de rime, enfin ça.
Et voilà, donc j'essaye de remettre du salsifis parce que j'ai une mère agricultrice, donc je lui ai demandé de le faire. Et ils m'ont fait un petit peu la gueule au début, mais bon, comme je suis un peu chiante, je vais quand même forcer et puis ils vont y arriver à manger tout ça, voilà.
Il est beau ton combat. Il est beau ton combat pour le salsifis, Marion.
Oui.
Bien sûr.
Merci, Edouard. Merci beaucoup.
Donc les gens peuvent te retrouver au marché Gare à Toulouse. Hein.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout.
Je vais faire mes paniers, mais après je lis directement sur le lieu de travail en fait.
Donc mon information est fausse.
Ouais, voilà, tu vois, on a mal fait le travail là, mais c'est pas grave. Non, mais tout va bien.
Gros bisous.
Non, je t'embrasse. Bisous, Edouard.
À très bientôt. Approximation fausse, mensonge, imprécision, vulgarité, sketch raté, poème improvisé, ça ne va pas. J'ai un bilan qui n'est pas bon. Ahmed et Christophe, quel a été votre rapport à cette émission de votre point de vue? Oui, allez, musique
rafraîchissante. Non,
c'était
elle était
bien,
très bien.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Bonjour Antoine Guiral.
Bonjour.
Antoine, vous revenez dans les jours cette semaine sur François Hollande et sa décision de s'auto-éliminer de la vie politique. Alors, déjà, est-ce que vous, personnellement, vous voyez plutôt un capitaine qui quitte le navire ou le courage d'un homme face à la réelle réalité?
Oh, c'est beau ça. plutôt quelqu'un d'extra-lucide et qui est totalement obsédé par la politique du soir au matin, et qui a sorti à la fois sa calculette et fait le compte et décompte des soutiens qu'il pouvait avoir, des voix qu'il pouvait obtenir chez les uns, chez les autres, et quelqu'un qui aussi tout à coup se dit que ça sert à rien de se faire humilier dans la vie et qu'il vaut mieux partir, tout simplement. C'est totalement inédit, ce genre de décision dans la vie publique française, et c'est peut-être aussi sa façon de se faire une petite place dans l'histoire à François Hollande, parce que de toute façon son mandat pour le moment en tout cas était assez peu marquant, et cette décision complètement originale et inédite en fait d'ores et déjà un personnage politique très à part. Et c'est, il y a un certain panache quand même à partir comme ça, là où tant d'autres s'accrochent au pouvoir des décennies entières, voire essayent de revenir.
Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on avait l'impression que la presse, depuis plusieurs mois, disait que sa décision n'était pas prise, qu'il ne savait pas, et tout à coup, en quelques jours, ça bascule, il prend la parole. Est-ce que vous croyez qu'une décision aussi importante et pour lui et pour le pays peut être prise sur une impulsion, sur 4 jours, sur un dernier discours de Valls, sur des petites choses comme ça?
Non, je crois pas du tout. Je pense que c'est vraiment une décision. Il aurait probablement aimé être candidat dans l'absolu, parce que c'est voilà quelqu'un qui fait de la politique, donc qui souhaite conserver le pouvoir. Le problème qu'il a eu, c'est que quand il regarde lucidement les possibilités qu'il a justement de le garder, elles sont extrêmement minces. Et cette décision, il la prend vraiment froidement et en analysant toutes les embûches en fait à une éventuelle candidature nouvelle, et la possibilité de l'emporter est si faible qu'il préfère sortir en conscience, comme on dit.
Mais alors le refus de l'humiliation n'est pas un courage en soi, cher Antoine Guiral?
Ah ah, oui, mais partir au combat pour se faire déchirer par des gens aussi, des tigres de la politique comme Gérard Filoche, Marine Lindemann, François de Rugy, tous les gens qu'il allait
avoir... Ils ne font pas peur, moi. Ouais.
À affronter dans cette primaire, je suppose que plutôt que d'avoir une coalition très hétéroclite en face de lui, il fait le choix de, voilà, tout simplement du retrait, encore une fois, pour aussi signifier qu'on peut porter un regard différent sur lui. On peut froidement sortir de l'espèce d'hystérisation autour de sa candidature et tout ce Hollande bashing, parce qu'il y en a eu quand même, hein, pendant toutes ces années, et regarder plus lucidement son bilan.
Antoine Guiral,
un autre le défendra.
Vous êtes un journaliste politique, ce métier qui n'est pas simple hein, ces temps-ci, Antoine, parce qu'on a l'impression à chaque fois on vous attaque, on vous dit oui, ils n'ont rien vu venir, ils ne savent rien, ça va quand même, vous êtes content ou...
Ah ben moi je suis très content parce que sortir justement de ce journalisme politique de prédictions, de petites phrases, de sondages, etc., tous ces petits soldats là du storytelling, justement au jour où on essaye d'avoir un regard complètement différent là-dessus, j'ai été journaliste politique comme ça. Alors, c'est une sorte de repenti peut-être, on va dire, mais en tout cas, je sais que pratiquer le journalisme politique de cette manière-là, ça conduit vraiment à une impasse et à confisquer d'une certaine manière le débat public et à créer toujours plus de défiance. On voit la politique comme une espèce de course permanente, de théâtre lointain avec des petites phrases, du pouvoir, de l'argent, etc.
Alors, il y a les petites phrases.
Mais ce qui se passe ces derniers jours, je trouve, permet aux citoyens vraiment de se réapproprier la politique. D'ailleurs, ils le font eux-mêmes, hein. Sortir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé du jeu, c'est une forme de volonté aussi de se réapproprier le débat public, de faire des choix. Et là, on sera vraiment projet contre projet, gauche-droite.
Vous avez de l'admiration pour... Vous avez repéré quelqu'un dans les partis politiques ou en dehors qui une sorte de futur point de suspension, gouvernant, ministre. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont touché, qui vous ont intéressé quand vous avez fréquenté les états-majors politiques? Des gens qu'on ne connaîtrait pas encore, nous, grand public?
Très peu. Franchement, très très peu. Non. Très peu.
Merci pour le tuyau. Je le jouerai à Vincennes.
Ouais. Non, mais je suis... Hélas... Parce que, oui, on peut dire quelqu'un comme Macron, voilà, qui tout à coup, une singularité émerge, mais très rapidement, en fait, il retombe tout de suite dans les codes de la vieille politique. Donc, je pense que c'est à venir, hein, voilà.
Merci Antoine Guiral, à retrouver dans les jours après lui le chaos.
Merci.
Pat, vous avez repéré, vous, quelqu'un à Vincennes cet après-midi?
Oui, dans notre IRC, le numéro 9, Edouard.
C'est qui?
C'est drivé par Pierre Iverva, Ulysse.
Qui est un jockey que vous avez remarqué?
Non, jockey c'est Iverva, mais le cheval s'appelle Ulysse.
Mais le jockey, c'est quelqu'un dans les années à venir, vous y croyez?
Je pense que c'est un jeune qui va faire très très mal dans les
voilà,
années à venir.
Voilà, dans le IRC, il se passe des choses ouais. Enthousiasmantes. Merci. Qu'est-ce qu'on écoute là, Armel?
Aniel Katib, un tatoué.
Bravo mon vieux, vous êtes au top. Il est 8h52, il est parti ce matin dans la rue, comme il fait froid, qu'il nous passe plein de gens formidables, on lui envoie son petit générique.
Jack, dans la rue?
Pourquoi pas?
Non, désolé.
Non, excusez-moi, je suis très pressé, je veux travailler.
Jack, dans la rue?
Dans la rue?
Non, vraiment,
excusez-moi. Non, je veux pas répondre.
Jack, dans la rue? Oui, bah pourquoi pas, oui.
Où en êtes-vous, Jack?
Je suis devant l'entrée du métro, plutôt la sortie du métro Opéra. Où je suis en point fixe et j'ai décidé de bouger que quand il y avait quelque chose qui m'intéressait.
Je comprends. C'est bien, j'aime bien suivant l'humeur. Vous voyez plutôt ouais, l'entrée ou la sortie, mais c'est le même endroit. Hein.
Oui, c'est le même endroit. Alors, un homme avec son attaché caisse, une femme avec son sac, deux femmes qui discutent. Ah, là, je vais tenter quelque chose. Bonjour, c'est moi, je suis ton prince charmant.
Oui, bien sûr.
Tu peux tout me demander, tu sais.
Oui, ça va, merci, j'ai pas de questions.
Rien du tout?
Non.
Bah, tiens, regarde, j'ai préparé ça pour toi.
Voilà, je suis en train de travailler, donc ça va être un peu compliqué de prendre du temps.
Moi, je suis en vacances.
Ah, c'est sympa. Ouais. Alors,
comme tu ne savais pas quoi dire, c'est une déclaration que je t'ai préparée, tu peux la remplir.
D'accord. Non, mais ça va, je suis désolée, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, donc...
Oui, bah, c'est pas très grave.
Non, je suis désolée. Mais...
Vous voulez pas remplir les blancs?
Non, ça va.
Non?
Elle est gentille,
c'est bon,
cette
dame. Non, c'est bon. Demandez à quelqu'un qui aura plus d'imagination.
Vous avez des très jolies lunettes.
Oui, c'est très gentil. Vous avez une très belle écharpe.
Oh, oh.
Allez, bonne journée, monsieur. Vous voulez un tract?
Non, je veux pas de tract, mais...
Bah, prenez-le, le tract.
Il y a plein de gens qui ont du temps.
Comment?
Il y a plein de gens qui ont du temps.
Prends le tract, Jack.
Je prends le tract.
Je ne comprends pas les gens qui prennent pas les tracts. C'est déjà assez emmerdant de distribuer des tracts. Prenons les tracts des gens qui les...
Bon, j'aurais tenté cette petite déclaration matinale.
Oui, mais elle vous avait fait un compliment sur votre écharpe, alors que si je me rappelle bien, vous n'en aviez pas en partant. Donc il y a eu de la fauche et un compliment.
Je l'ai trouvé enroulé autour d'un arbre.
Alors, continuez Jack, continuez à aller vers l'autre. Tendez la main à l'inconnu.
suis bien là.
Connais-tu ton saint patron, saint Jacques, qui était ami de Jésus? Continuez, Jacques. Allez, allez, allez vers, vers l'aventure. Je ne veux pas que vous rentriez seul.
Oui, maître, je pars.
Il y avait une belle rime. Prends le tract, Jack. Et oui, never come back no more, more, more. Prends le tract, Jack. Jack. Et never come back no more.
What you say?
Non, non, non.
Allô?
Oui.
Jack.
Ah, c'est très beau. C'est très joli. Ah, mademoiselle. Mademoiselle. Une jeune femme en Vélib. C'est le feu rouge, j'en profite.
Oui.
Vous allez dans quel coin?
Je vais travailler juste là, mais je vais vers maintenant.
Monte, oui. Mais si. Monte. Allô, mais grimpe là-dessus. Mets-toi à l'avant.
Ah, ouais, mais j'ai failli, mais il faut que je trouve un système avec les fils de mon micro, là, ça traîne trop, ça se prend dans les gens, ça se prend dans les rayons.
Mais vous arrivez à être poussé avec le sourire, vous êtes l'homme le moins giflé de France.
C'est vrai, je comprends pas. Je vais essayer des trucs un peu différents. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va, mais je dois aller au travail très rapidement.
Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Pas de réponse. Pas de réponse. Je vais essayer. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir?
Je ne sais pas du tout.
Enfin, moi non plus.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Oui. Oui. Je pense. Oui. Vous pensez? Il y en a qui pensent. Bon, voilà. Devant les passages piétons, c'est toujours un grand moment parce qu'on attend, on est tous ensemble, on est serrés. Et puis les voitures passent, et puis on voit des grands panneaux publicitaires. Puis personne ne se regarde vraiment. Enfin, si, un peu. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous avez la même écharpe que moi?
Ah ben, ça me fait bien plaisir, mais elle n'est pas la même couleur.
Oui, c'est vrai, mais c'est un peu le même type.
C'est le même type. Vous avez...
De laine.
Oui.
Vous avez bossé, je parie.
Comme tout le monde. Enfin, comme la plupart des gens.
Moi, je pose une question ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va devenir?
On va dans le mur. C'est une catastrophe.
Non, traversons.
C'est une catastrophe, on va dans le mur. Les Français, ils n'ont rien compris.
Vous n'êtes pas française, vous?
Si, je suis française.
Vous n'avez rien compris?
Moi, j'ai compris, mais 90% des Français n'ont rien compris.
Bon, ben, je vous laisse. Hein.
Bravo, Jack.
Moi, j'ai envie de comprendre.
Mais...
C'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre un petit peu plus les choses. Là, je suis devant un deux petits chatons avec un petit rat, deux petits rats et puis un orgue de barbarie. Ça existe encore, les orgues de barbarie, mais ils ne jouent pas et son maître n'est pas là.
Merci, Jack. Je vous laisse avec les singes, avec vos questions, avec vos espérances. On vous retrouvera demain. Qu'est-ce qu'on va devenir alors qu'on a la même écharpe? Alors que certains vont travailler en Vélib, d'autres sont déjà en train de tracter à la sortie des métros. Jack, entre dans vos vies, n'en sortira plus. À demain. Pourquoi cette musique sinistre? Ah, pas non. Alors, nous, on a à peu près fini, parce que je vous explique l'histoire. Il est 57. Armel va me dire, on doit mettre la pub. Si
la
je
pub,
dis non, il me dit, de quoi tu vis? Atmen, vous avez, ça s'est bien passé ce matin?
Pas trop mal, oui.
Christophe, ça va? Donc là, effectivement...
Moi, je remonte ma tablette.
Beaucoup de gens travaillent à 9h. À 9h, dans la plupart des villes, on travaille à 9h. Hein, souvent dans le monde de l'entretien ou de l'éducation qui commence plus tôt.
Ou de l'administratif.
Dans le monde du chômage, hélas, on attend, donc on est encore un peu chez soi. À 10h, il y a les cabinets d'architectes et décorateurs.
Et oui.
À 11h, il y a Christophe Méné. À midi. Voilà. Merci Armel pour cette réalisation remarquable. Eugénie Poumaillou, vous nous avez passé combien de coups de fil? On s'est pas baladé en France. J'ai pas eu mon Tito. On a eu Tito à Montpellier?
Et non. Vous le voulez?
Bah, je sais pas, il est 57, je ne peux pas.
Ça va être
bon. Alors, Thierry Paré va rentrer. Merci Marie Missé. Salut, à demain. Pas mal pour lundi.
Ouais, bien. 9h, plus près de toi.